France Culture. À voix nue. Toute cette semaine, Pascal Werner rencontre Georges-Arthur Goldschmidt. Aujourd'hui, une enfance allemande.
Vous êtes issu, Georges-Arthur Goldschmidt, d'une histoire complexe de persécution et d'exil. Vous êtes né à Rheinbeck, près de Hambourg, le 2 mai 1928, dans une famille juive de magistrats convertis au protestantisme. Vous avez fui l'Allemagne nazie avec votre frère aîné en mai 1938 pour l'Italie, puis la France, tandis que votre famille restait en Allemagne où elle sera en partie exterminée. Réfugié à l'âge de 11 ans dans une maison d'enfants près de Megève, vous avez dû vous cacher dans une ferme en 1943 pour échapper aux perquisitions des nazis. Vous adoptez la religion du pays qui vous a recueilli en vous convertissant au catholicisme. Vous êtes alors à peine sorti de l'adolescence et vous deviendrez plus tard agnostique, sinon athée. En 1949, vous êtes naturalisé français et vous reprenez racine dans la vie en choisissant un métier, celui de professeur d'allemand, que vous exercerez toujours. Vous êtes ce qu'on appelle un rescapé, et votre histoire est emblématique de l'histoire européenne de la seconde moitié du XXe siècle. Depuis les années 70, vos récits, les chroniques, Un corps dérisoire et le Philibus, et plus tard les récits, Un jardin en Allemagne ou La forêt interrompue, par exemple, vos essais, Quand Freud voit la mer, pour ne citer que celui-là, en bref, vos livres sont pétris de cette histoire qui a fait aussi de vous le traducteur de Nietzsche, de Kafka et l'introducteur en français de Peter Handke. Votre autobiographie, La traversée des fleuves, parue au Seuil en 1999, est un livre magnifique. Vous ne l'avez écrite cependant que sur la suggestion insistante de votre éditeur Denis Roche, elle est pourtant comme la boussole rétrospective de toute votre œuvre.
Il arrive souvent que là où les autres vous mènent, c'est là où vous devez aller. C'est très curieux. Comme si les autres devinaient, beaucoup mieux que soi-même, qui on était et ce qu'on devait faire. C'est magnifique d'ailleurs. La raison d'être d'un livre, c'est de vérifier que l'autre vous considère comme sien, c'est-à-dire comme intégré totalement à l'humanité. Et l'écriture n'est toujours qu'un moyen de savoir si on est encore dans l'humanité. Je dis bien encore.
L'écriture pour vous est un passeport.
Probablement. Je ne me suis jamais demandé ce qu'elle était, mais à force de le faire, elle est la preuve même de ce que nous sommes, je crois. Ce qui est humain ne prend vraiment de sens que par l'écriture, chacun le sait. Hein. Ce n'est pas par hasard qu'on parle des écritures.
Alors, votre ami Peter Handke a écrit dans Le malheur indifférent, qui est un des rares livres de lui que vous n'avez pas traduit, sur le suicide de sa mère. Peter Handke a écrit à la fin du livre que tant de sincérité l'épuisait et qu'il voulait se réfugier dans le déguisement de pièces de théâtre, de choses comme ça. J'ai le sentiment que chez vous, Georges-Arthur Goldschmidt, il n'y a pas de déguisement, qu'il s'agisse de vos récits, de vos chroniques, de vos essais ou de vos traductions, vous êtes tout en, dans le choix de vos traductions, par exemple, vous êtes toujours entièrement sincère et que c'est c'est une rigueur que vous vous infligez. C'est dur, une sincérité aussi irréfutable.
Je n'en sais rien. Je fais de la fiction. Je mens aussi dans les chroniques. Mais c'est ce qui a le mentir vrai, comme disait Aragon. Je crois que, pour moi, ça m'interroge, comme on dit aujourd'hui de plus en plus, le fait de mon existence illégitime. Vous avez très bien dit que j'étais un rescapé, car je ne suis pas un survivant. Je n'ai eu que faim et une peur épouvantable. Dans cette ferme où j'étais réfugié, tous les mardis, les Allemands venaient acheter du beurre et des œufs, faire des manœuvres, et moi je croyais toujours qu'ils venaient me chercher. Et le paysan qui me cachait dans le foin. Et vous pouvez imaginer la peur d'un enfant quand les Allemands entrent comme ça. C'était épouvantable, mais c'est tout ce que j'ai vu. J'ai vu les avions passer qui allaient bombarder Turin. Et j'ai vu les Allemands, deux Allemands dans le village, et c'est tout. Donc je ne suis pas un survivant, j'ai eu une guerre de luxe, si je puis dire. Mais ça n'en rend que ma mauvaise conscience plus grande, et en même temps, l'émerveillement de vivre. Pour moi, chaque jour que je vis est un miracle. Je n'ai aucune raison d'être là. On me laisse vivre, si je puis dire. Mon existence n'est pas du tout légitime. Les gens de ma sorte, écoutez, on a quand même supprimé quelques millions, hein, qu'ils soient de confession juive ou pas, hein, ce qui est mon cas, moi je suis protestant, comme vous l'avez dit, ensuite converti au catholicisme, d'ailleurs beaucoup plus par reconnaissance pour le vicaire qui m'a caché que pour d'autres raisons. Et je suis là dans ma survie avec cette famille, ma femme qui est, on ne peut pas plus française, je suis...
Une famille d'ouvriers socialistes.
D'ouvrières, exactement. Et moi, je suis là complètement illégitime, si vous voulez. Alors, ce n'est pas de la sincérité, c'est simplement l'étonnement d'être là. En plus, j'ai eu quand même une enfance, une adolescence pour le moins étrange. Et j'essaye toujours, non pas de la revivre, mais de comprendre comment ça s'est passé. Hein. Comment dire, c'est... Ma vie est une, comme vous l'avez très bien dit, une étrange aventure européenne. C'est pas... partagé entre la France, l'Allemagne. Vous avez, on dit en allemand, il y a une phrase célèbre, Art zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Hélas, deux âmes habitent ma poitrine. Moi, je dis, par bonheur, deux âmes habitent ma poitrine. Je suis toujours sur la corde raide, dans le déséquilibre, et c'est une situation extraordinairement intéressante et exaltante. Cette espèce de pointe sur laquelle j'ai la chance de vivre. J'essaie en ce moment de comprendre ce vide, cette espèce de tige vide qui est l'être soi. Il n'y a rien, c'est complètement... Cette espèce de durée, Bergson a magnifiquement dit tout ça, cette espèce de durée qui continue en chacun de nous et qui est, pour la plupart des gens, est une évidence. Mais ce n'est pas du tout évident.
Je voudrais qu'on plonge dans ce qui a fait la matière de votre écriture, dans les intervalles et les rythmes desquels vous avez trouvé votre inspiration tout au long de votre vie, qui est cette enfance allemande et cette jeunesse provinciale française, puisque vous avez vécu ces deux choses-là. Alors, il y a qu'on comprenne tout de suite comment vous écrivez dans un jardin en Allemagne où vous n'écrivez pas au je, vous écrivez en disant il, hein, mais c'est presque un récit, c'est un récit autobiographique.
Oui, hein. Absolument.
Voici ce que vous écrivez et qui nous fait éprouver ce que vous ressentiez à l'époque. Les objets traînaient partout, sac à provisions plein sur les meubles du salon, et sa mère vidait sans cesse les restes d'une assiette dans une autre. Elle restait dans la maison en manteau d'hiver, sac à provisions à la main, et revenue de faire des achats, elle se faisait une liste, chapeau sur la tête, se croyant sur le point de partir. Parfois, les parents se rencontraient dans une porte, se heurtaient de face, et aussitôt, de la même voix basse, monocorde, ils recommençaient toujours la même conversation et l'interrompaient toujours au même point. Ils se tassaient chaque jour un peu plus sur eux-mêmes et sursautaient à chaque coup de sonnette. Ils n'avaient plus ni place ni temps pour eux-mêmes. Ils ne fermaient plus aucune porte et quand ils ouvraient un tiroir, ils oubliaient de le repousser. Ils restaient en avant du meuble, légèrement inclinés vers le bas. Un cintre se balançait dans une armoire ouverte. Il lui vint cette idée. Peut-être eux aussi étaient-ils des juifs. Tout le livre « Un jardin en Allemagne » est organisé autour de cette angoisse qui monte dans le trouble des gestes, dans le trouble du temps des parents, de la famille, dans ce qui désordonne le jardin qui était ce lieu de refuge de l'enfance.
Je ne me souvenais pas du tout de ce passage, mais c'est tout à fait ça. Vous avez très bien dit « désordonne », c'est exactement ça. Ma famille est une des plus anciennes... les Juifs étaient enterrés uniquement avec des pierres, sur lesquelles des pierres tombales, d'où ce qu'on avait deux. Et les premiers documents administratifs remontent au début du XVIIe siècle. Et ma famille est là depuis le XVIIe siècle, déjà installée, probablement assez protégée, je ne sais pas, parce qu'ils étaient au Danemark, enfin, la banlieue de Hambourg, c'était le royaume du Danemark. Et c'était devenu de grands bourgeois parfaitement intégrés. Mon grand-père se convertit au protestantisme, mon père était évidemment un protestant fervent, il sera d'ailleurs pasteur protestant du camp de concentration de Theresienstadt où il a été déporté, ce qui est un paradoxe extraordinaire, dont il réchappera d'ailleurs. Et ma famille, on ne pouvait pas être plus allemand. Mon père a un jour serré la main de Guillaume II, il s'en est jamais remis. Et mon père, en plus, était un magistrat important. Il était chargé d'allumer les feux sur la tour de granit consacrée à la mémoire de Bismarck. Quand c'était l'anniversaire de la naissance de Bismarck, vous vous rendez compte? C'est-à-dire, il n'y avait pas plus intégré, il n'y avait pas plus nationaliste allemand que mes parents. Et moi, j'ai été élevé dans les contes de Grimm, dans les moulins à vent, dans cette Allemagne idyllique telle que les Français l'imaginent et qui a été ravagée à jamais, détruite à jamais dans ses fondements les plus intimes par la barbarie nazie. Ça, je l'ai vécu. Je suis l'un des témoins, j'avais quand même 10 ans quand je suis parti. Si vous ne saluiez pas l'allemand, c'est-à-dire leviez le bras et disiez Heil Hitler, au lieu de dire bonjour, vous étiez instantanément repéré. L'après-midi, la Gestapo venait chez vous. Qu'est-ce que c'est que c'est? Et la menace était fantastique jusque dans les arbres. Le paysage était gelé par l'horreur et l'angoisse. Et les gens avaient converti leur trouille innommable en un enthousiasme délirant. Et mes parents vivaient exactement comme je l'avais décrit là, dans cette espèce de perpétuelle angoisse. Et en plus, ce qui est très étrange, en plus dans ma biographie, c'est que j'ai deux arrière-grands-pères nés au XVIIIe siècle. Le père de mon père né en 1795, mon grand-père en 1832 et mon père en 1873. Il était donc un juriste de plein exercice en 1900. Ils avaient donc vécu la montée de la naissance de l'Allemagne, qui, ne l'oublions pas, naît à Versailles le 21 janvier 1871, à Versailles. Et donc c'est le pays des paradoxes, et mes parents sont l'incarnation de ce paradoxe. Ils ont à 55 ans, ils m'ont... je suis tard venu, j'ai vécu chez mes propres grands-parents, qui étaient des gens complètement issus d'un autre siècle. Ma mère était une pianiste absolument géniale, un quart d'heure durant, puis après elle pensait, elle était beaucoup trop nerveuse, beaucoup trop instable, pour ce et d'où cette espèce de désorganisation, de désordonnement, comme vous dites, désordonnancement du jardin. Mais c'était vraiment l'Allemagne la plus profonde qu'on puisse imaginer. C'est ça qui est tout à fait étrange. Hein. Le grand poète Henry Heine est mon arrière-grand-cousin. Ça, c'est la même famille, Mendelssohn, tous ces gens-là. C'est pour dire à quel point ces gens étaient intégrés. Il n'y avait pas plus allemand que ces gens-là, qui d'ailleurs creuseront leur propre tombe, puisque mon père était un monarchiste convaincu, monarchiste éclairé, il n'y avait pas plus allemand que lui, et il se retrouvera à Theresienstadt en plein camp de concentration sans très bien savoir ce qu'il fait là.
Il a toujours cru que c'était une erreur, écrivez-vous.
Oui, il n'a pas cru que c'était, oui, une faute, un malentendu considérable, une espèce de regrettable. C'était tout très extraordinaire. Ça. Il n'y avait pas plus allemand que lui. Mmh. C'est étrange.
Mais alors, vous aviez tout deviné sans qu'on vous dise rien.
Exactement, parce que mes parents se gardaient de me dire quelles étaient mes origines, probablement.
Le mot juif n'était jamais prononcé.
Jamais prononcé. Il n'y avait pas de chance. Il n'y avait aucune trace du passé juif de la famille. Aucune. Je n'ai jamais vu de lettres hébraïques. Je n'ai jamais vu même de chandelier à cette branche, d'étoiles. J'ai été élevé dans le protestantisme, dans le luthéranisme le plus rigoureux et le plus pieux. Et je savais toutes les paraboles de l'évangile de Matthieu par cœur. Il y avait une Bible pour enfants, d'après la retraduction de la Bible de Luther. On m'avait obligé à apprendre ça par cœur. J'allais au culte des enfants tous les dimanches, dont j'ai ensuite été exclu d'ailleurs par un pasteur avec le fils duquel je suis en correspondance. C'est très curieux parce que il y a une longue explication entre.
Il s'appelait Hartung, ce pasteur.
Voilà. Et qui d'ailleurs m'a exclu, peut-être parce qu'il pouvait pas faire autrement, parce qu'il faut aussi me mettre à la place des gens et qu'il y avait une trouille absolument mortelle.
Et vous étiez pourtant protestant?
Oui. Mais il se trouve.
Que vous étiez juif complet.
Voilà. Puisque mes grands-parents étaient. Les lois de Nuremberg avaient déterminé que quiconque avait des grands-parents de confession juive était juif. Est-ce qu'une race ou est-ce que c'est une religion? C'était l'absurdité la plus. L'absurdité criminelle en soi. D'ailleurs, ces lois, finalement, étaient dirigées. La folie était si grande que finalement, l'Allemagne en est morte. Hein. C'était une espèce de suicide. C'est une apocalypse, c'est un suicide. Hein, c'est tout à fait extraordinaire. Mais pour revenir à mes parents, c'était vraiment des. Il n'y avait pas plus allemand. Ils parlaient d'ailleurs un allemand, l'allemand Thomas Mann. Thomas Mann qui aussi gravite autour de ma famille. Il y a des relations, des gens que mes parents connaissaient assez bien. Et ils écrivaient le même allemand, ils parlaient le même allemand. C'était une espèce de bourgeoisie supérieurement cultivée, telle qu'elle existait à la fin du 19e siècle, dans les romans de Thomas Mann.
Les Buddenbrook.
Voilà, c'est tout à fait l'atmosphère de ma famille, sauf qu'ils avaient beaucoup moins d'argent. Parce que mon père était magistrat, c'était pas la grande bourgeoisie comme les Mann, mais c'était les mêmes impressions, les mêmes sensations, c'est très très curieux.
Le même mobilier, vous dites?
Oui, le même mobilier, absolument, ce mobilier un peu distingué, en acajou, assez sobre. Et très élégant, ça s'appelle le Biedermeier en Allemagne. Ça. C'est aussi des meubles qu'on retrouvait en Angleterre. Il y avait tout un art de vivre, fait en même temps de tolérance, de nationalisme et de multilinguisme. Tous ces gens savaient tous, mon père savait admirablement le français, l'anglais, l'italien, le grec et le latin. Et c'était tout normal, tout le monde dans cette bourgeoisie moyenne, ou même la haute bourgeoisie, parlait plusieurs langues. Et c'était inconcevable que quelqu'un ne sache que l'allemand pour une simple et bonne raison. C'est qu'il ne fallait pas que les domestiques comprennent ce que vous disiez.
Donc vous avez eu une enfance qui aurait dû être extrêmement protégée, une enfance qui tout d'un coup est minée par l'insécurité, que vous décelez à des signes, les armoires qu'on sort, les déménagements dont on parle, jusqu'à ce que les choses se précipitent avec l'exclusion de votre frère du lycée.
Voilà.
Et c'est ce qui décide vos parents de vous faire partir d'Allemagne.
Oui, mon père était un grand juriste. Il avait failli être juge au tribunal constitutionnel, puis ma mère n'a pas voulu partir. Et il avait donc très bien compris ce qui allait se passer. Et il nous a envoyé, mon frère qui n'avait plus allé au lycée, et moi qui donc n'aurais pas pu aller au lycée, en Italie, chez des gens qui étaient eux-mêmes juifs ou d'origine juive, et qui étaient professeurs de l'université de Francfort et qui étaient exclus de l'université, et qui a fondé une espèce d'institution privée à Settignano, près de Florence. Et ils m'ont envoyé chez ces gens qui sont ensuite partis pour la Nouvelle-Zélande et qui voulaient nous amener avec eux. Mais je ne sais pas, ça ne s'est pas fait. Mes parents devaient trouver ça trop loin. Et j'ai découvert cet autre paradoxe de mon existence. Les rires, la joie de vivre, l'enthousiasme et le bonheur dans l'Italie fasciste. Car l'Italie de Mussolini, en
mai 1938,
en mai 38, quand je suis arrivé à Florence, j'en revenais pas. Tout le monde hurlait, rigolait, les gens plaisantaient, on criait de tous les côtés, tout le monde, il y avait des tas de journaux. Et moi, je venais de cette Allemagne figée, raide, où régnait une terreur mortelle, où tout le monde se baladait le bras levé, où vous voyez les gens habillés en caca d'oie, l'uniforme nazi, vous savez, de la SA qui était jaune caca, où on commençait déjà à voir la SS qui marchait, où il y avait la terreur des jeunesses hitlériennes, où les gens étaient littéralement navigués entre l'enthousiasme et la terreur. Hein. Et j'arrive dans ce pays, lui aussi gouverné par qui n'est plus un pays libre, et où je découvre la liberté et les rires. Ça. Je raconte ça quelque part. Je me suis un jour retrouvé sur les genoux d'un Wattman qui conduisait un trolleybus via Cavour à Florence.
Dans la traversée des fleuves.
Avec un tricorne de carabinieri sur la tête et les fenêtres ouvertes et le type qui gueulait « El conduttore piccolo tedesco !» Le conducteur, c'est un petit Allemand. Et j'étais assis sur ses genoux et tout le monde rigolait. C'était impensable en Allemagne, mais totalement impensable. Et j'avais sur la tête, le carabinier m'avait mis son chapeau. Vous savez, ils avaient encore des chapeaux un peu...
En tricorne.
Napoléon, un espèce de tricorne, avec deux grands machins, sur la tête, pour rire. En italien, pour moi, je ne comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. Hein. Ce pays où on riait. Hein.
Donc vous avez découvert ensuite que cette sécurité... était toute fragile, puisque à partir des lois de Nuremberg, à partir de la nuit de cristal, c'est
oui,
ça ?
Oui, à partir de novembre 1938, il y avait les mêmes mesures raciales prises en Italie, mais en Italie, c'était toujours comme d'habitude avec des aménagements, puisque les commissaires de police, c'était eux qui devaient désigner qui était juif et qui ne l'était pas, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais comme moi, j'étais un petit Allemand, ce qui s'est passé, je ne sais pas, je sais que simplement, on m'a amené un jour chez le consul général de France à Florence, qui avait un magnifique costume trois pièces, qui était un monsieur, la première fois que je voyais un Français, un monsieur petit, distingué, à qui j'ai dit « nous avons, vous avez ». C'est tout ce que je savais, évidemment en français, et je me suis retrouvé dans le train avec mon frère, dans une peur mortelle, parce qu'on ne voulait pas nous... Deux douaniers se sont disputés pour savoir si on allait nous laisser... passer la frontière ou pas, et je me rappellerai toute ma vie de l'arrivée dans le soleil, dans la tranchée, il y a des rochers partout, à Modane, puis ensuite Chambéry, où on devait descendre, le train s'arrête, et on vient me chercher, mon frère était beaucoup plus grand, nous descendons, et il y avait un porteur, ça c'est mon grand souvenir, et avec un bandeau de cuivre où était marqué en creux, porteur, vous savez c'était en creux, ça m'avait beaucoup étonné. Et le type me dit « Hitler, caca ». C'est mon premier contact avec la France. J'ai instantanément compris que les Français ne pouvaient pas dire le H aspiré et qu'ils avaient tout compris. Et j'avais 11 ans. Et ça y est, tu es libre. Et ça, c'était un sentiment extraordinaire, dont je ne me suis jamais remis. Hélas, juin 40 nous montrera que cette compréhension était purement intellectuelle. Enfin. Mais peu de jours après, j'avais la chance que la directrice de l'internat où j'habitais était gaulliste. Et elle nous a dit, tout n'est pas perdu, à Londres. Et je me suis mis, et j'ai compris que la capitale de la France était devenue Londres. Et que
en 40.
Pardon, en 40.
Oui.
C'était en juillet 40, quelque chose comme ça. Je me rappelle très bien. Et pour moi, ça ne faisait aucun doute. La capitale de la France était Londres et le chef du gouvernement était le général de Gaulle. Moi, petit Allemand, j'avais compris que Pétain n'était en aucun cas ne représentait. Pour moi, c'était absolument une évidence. Et d'ailleurs, j'avais la chance de pouvoir écouter Radio Londres. Et évidemment, je savais déjà parfaitement le français, de manière absolue. Comment j'ai appris le français, je n'en sais rien. Je sais simplement qu'en fin 39, je le parlais absolument couramment. Et j'ai toujours su que la capitale de la France, à ce moment-là, était Londres. Et je mourais de honte. J'ai beaucoup raconté ça. Quand je voyais sur les photos de deux illustrés qui s'appelaient Signal et Match, à cette époque, les photos des pancartes pour la Wehrmacht devant l'Opéra ou les monuments de Paris, et j'allais au cabinet pleurer de honte de voir ces affiches allemandes, en allemand, dans cet horrible allemand hitlérien, devant les grands monuments français. Moi, je crevais littéralement de honte. Et ce qui m'étonnait, c'est que les gens, ils avaient presque l'air de considérer ça. Ben oui, ma foi, c'est comme ça. Et moi, j'avais honte. Une honte inextinguible.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Pascal Werner rencontre Georges-Arthur Goldschmidt. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Marcel Lebras, réalisation Marie-Laure Ciboulet, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Pascal Werner avec Georges-Arthur Goldschmidt.